Oblomov, chapitre 1. Monsieur Elie Oblomov demeurait rue Gorokhovaïa dans une de ces grandes maisons dont les locataires suffiraient à peupler une ville de district. C'était le matin et monsieur Elie Oblomov était au lit dans son appartement. Monsieur Oblomov pouvait avoir de 32 à 33 ans. Il était de taille moyenne et d'un extérieur agréable. Il avait les yeux gris foncé, mais ses traits accusaient l'absence de toute idée profonde et arrêtée. La pensée, comme un oiseau, se promenait librement sur son visage, voltigeait dans ses yeux, se posait sur ses lèvres à demi ouvertes et se cachait dans les plis de son front, pour disparaître ensuite tout à fait. Alors, sur toute la physionomie, s'étendait une teinte uniforme d'insouciance. L'insouciance se répandait de là dans les poses du corps et jusque dans les plis de la robe de chambre. Quelquefois, le regard devenait terne et exprimait la fatigue ou l'ennui. Mais ni la fatigue ni l'ennui ne pouvaient, même pour un instant, altérer la douceur de la physionomie, tant cette douceur, qui était l'expression habituelle non seulement du visage mais de l'âme, se peignait clairement dans les regards, le sourire et dans chaque mouvement de la tête et de la main. Un observateur froid et superficiel, qui eût jeté un coup d'œil en passant sur Oblomov, aurait dit « Ce doit être un bon enfant, un homme qui a le cœur sur la main ». Mais un philosophe doué d'un cœur plus chaud et d'une intelligence plus vive, après avoir longtemps regardé Elie, aurait emporté de cet examen une très agréable impression. Le teint d'Oblomov n'était ni rose, ni brun, ni positivement pâle, mais d'une couleur vague. Il peut se faire qu'il parut ainsi parce qu'Elie s'était affaissé avant l'âge. Était-ce par suite du manque d'air ou du manque d'exercice? Peut-être de l'un et de l'autre. À en juger par le ton trop mat et trop blême du cou, des mains menues et potelées, et par la mollesse des épaules, Oblomov semblait, en général, beaucoup trop délicat pour un homme. Dans l'émotion même, ses mouvements étaient alanguis par une paresse qui ne manquait pas de grâce. Si du fond de l'âme s'élevait un nuage de soucis qui l'assombrissait, son front se plissait et on y apercevait la lutte du doute, de la tristesse et de la crainte. Mais rarement cette lutte aboutissait à une idée arrêtée, et plus rarement encore se résumait dans une résolution. Elle s'évaporait en un soupir et s'évanouissait dans l'apathie et la somnolence. Comme le costume habituel d'Elie allait bien à la placidité de sa figure et à la mollesse de son corps. Il portait un kalat à la persane, mais un kalat véritablement oriental, qui ne rappelait en rien l'Europe, sans houppe, ni velours, ni taille. Si ample qu'Oblomov aurait pu s'en envelopper deux fois. Il serait encore resté assez d'étoffe pour l'habit de chasse d'un Parisien. Les manches, suivant l'usage invariable de l'Asie, allaient toujours en s'élargissant des doigts à l'épaule. Quoique ce kalat eût perdu de sa première fraîcheur, et par endroits eût remplacé son éclat primitif et naturel par un lustre acquis, il gardait néanmoins les brillantes couleurs de l'Orient, et le tissu en était encore solide. Aux yeux d'Elie, son kalat possédait mille qualités inappréciables. Il était souple et moelleux, ne pesait nullement au corps et se pliait comme un esclave obéissant à ses moindres mouvements. Elie ne portait jamais à la maison ni cravate ni gilet, parce qu'il aimait à être à l'aise. Ses pantoufles étaient longues, larges et molles. Lorsque, sans regarder, il descendait du lit sur le plancher, ses pieds y entraient infailliblement du premier coup. Si Oblomov demeurait au lit, ce n'était point par nécessité, comme quand on est malade, ou qu'on tombe de fatigue et de sommeil, ni par volupté, comme ferait un paresseux. Garder le lit était son état normal. Quand il restait chez lui, et il ne sortait presque jamais, il était toujours au lit, et toujours nécessairement dans la même pièce où nous l'avons trouvé, et qui lui servait de chambre à coucher, de cabinet et de salon de réception. Il en avait encore trois autres, mais il n'y jetait qu'un regard en passant, quelquefois le matin quand le domestique balayait son cabinet, ce qui n'arrivait pas tous les jours. Les meubles y étaient couverts de housses, les stores baissés. La chambre où Ellie était couchée semblait à première vue parfaitement ornée. On y voyait un bureau en acajou, deux sofas en damas et un joli paravent brodé d'oiseaux et de fruits fantastiques. Il y avait aussi des tentures de soie, des tapis, plusieurs tableaux, des bronzes, des porcelaines et quantité de charmants bibelots. Mais l'ensemble de ces objets avait un sens qu'un œil exercé aurait démêlé sur le champ. On y lisait le désir de garder tant bien que mal le décorum sans se donner pour cela aucune peine. C'est certainement dans ce seul but qu'Élie avait arrangé son cabinet. Un goût délicat n'aurait pu s'accommoder de ces chaises d'acajou lourdes et disgracieuses, ni de ces étagères vacillantes. Le dossier d'un des sofas s'était affaissé, et l'acajou plaqué s'était décollé par plaques. Les tableaux, les vases et les bibelots étaient dans le même état. Le maître lui-même promenait sur l'arrangement de son cabinet un regard morne et distrait qui semblait dire « Qui diable m'a fourré tant de choses là-dedans ?» Il suffisait d'un peu plus d'attention pour remarquer cet abandon et cette négligence, résultat de la froide indifférence du propriétaire, et peut-être encore plus de son domestique Zakhar. Le long des murs, autour des tableaux, s'accrochaient en festons des toiles d'araignées, imprégnées de poussière. Les miroirs, au lieu de refléter les objets, ressemblaient aux tables de Moïse. Sur la poussière, on aurait pu écrire des notes. Les tapis étaient pleins de taches. Un essuie-main traînait sur un sofa, et il se passait rarement un matin sans qu'on vît sur la table une assiette, une salière, un os à demi rongé et des miettes de pain, débris du souper de la veille. Sans cette assiette, et sans une pipe encore chaude appuyée contre le lit, ou bien encore sans le maître qui y était couché, on aurait pu croire la chambre inhabitée, tant elle apparaissait couverte de poussière, pleine d'objets fanés, et vide de tout ce qui indique la présence d'un homme. On apercevait bien sur les étagères deux ou trois livres ouverts, un journal abandonné, et même sur le bureau un encrier avec des plumes. Mais ces livres étaient souillés de poussière et jaunis par le temps. On voyait qu'ils avaient été jetés là de longue date. Le journal était de l'année précédente. Et si l'on avait trempé une plume dans l'encrier, peut-être qu'une mouche effrayée s'en serait échappée en bourdonnant. Oblomov, contrairement à son habitude, s'était réveillé de très bon matin, vers les 8 heures. Il était en proie à une forte préoccupation. Sa figure exprimait tour à tour de vagues sentiments de crainte, d'ennui et de colère. On devinait qu'il souffrait d'une lutte intérieure et que le raisonnement n'était pas encore venu à son secours. Le fait est qu'Elie avait reçu la veille des nouvelles fâcheuses de son staroste. On se figure bien de quelle nature sont les nouvelles fâcheuses que doit annoncer la lettre d'un staroste. Il ne peut y être question que d'une mauvaise année, d'arriérés, de diminution de revenus, etc. Cependant, le staroste avait déjà donné des avis pareils à son seigneur, la dernière et l'avant-dernière année. Mais cette fois, la malencontreuse lettre avait ému Élie, comme l'eût fait toute autre surprise désagréable. et il y avait de quoi. Ne fallait-il pas penser à prendre des mesures? Rendons pourtant justice à la sollicitude d'Oblomov pour ses affaires personnelles. Au reçu de la première lettre, bien des années auparavant, il avait ébauché dans sa tête un plan de divers changements et améliorations à introduire dans la gestion de ses biens. Il se proposait d'y amener différentes innovations économiques, administratives et autres. L'auteur était loin d'avoir médité toutes les parties de son plan, et pourtant les lettres affligeantes du staroste se répétaient chaque année et l'obligeait à une activité d'esprit qui troublait sa quiétude. Oblomov reconnut qu'il était urgent, avant la fin de son œuvre, d'entreprendre quelque chose de décisif. Aussi, dès qu'il fut réveillé, conçut-il le projet de se lever immédiatement, de se laver la figure et, après avoir pris le thé, de réfléchir profondément, d'étudier plusieurs combinaisons, de les noter, et en général de s'occuper sérieusement d'affaires. Pendant une demi-heure, il resta encore couché, se tourmentant de cette grande résolution. Ensuite, il pensa judicieusement que tout cela pouvait se faire après le thé, que le thé, il pouvait bien, selon son habitude, le prendre au lit et rester couché pour méditer. Ainsi fit-il. Quand il eut pris le thé, il se souleva un peu et faillit se lever. Il jeta un coup d'œil sur ses pantoufles et commença même à descendre un de ses pieds, mais il le retira brusquement. La pendule sonna 9h30. Oblomov tressaillit. « Qu'est-ce que je fais donc ? » murmura-t-il tout haut. « Il faut être raisonnable. Il est temps de s'occuper d'affaires. Si on se laisse aller, alors... » Il cria. « Zakhar ! » Dans une pièce séparée de la chambre d'Oblomov par un petit couloir, on entendit d'abord comme le grognement d'un chien de garde. Ensuite, le bruit de deux pieds tombant sur le parquet. C'était Zakhar, qui sautait à bas du poêle où il passait toute sa journée dans une demi-somnolence. En la chambre, entra un homme déjà sur l'âge, habillé d'une veste grise qui laissait voir la chemise sous l'aisselle, et d'un gilet gris à boutons de métal. Il avait le crâne nu comme un genou, et la face ornée de deux immenses favoris touffus, blonds, grisonnants, dont chacun aurait suffi pour trois bonnes barbes. Non seulement Zakhar se contentait de l'image que Dieu lui avait donnée, mais il ne prenait même pas la peine de rien changer au costume qu'il avait porté à la campagne. Son habit était taillé sur un modèle à portée du village. La veste et le gilet gris lui plaisaient de plus, parce que cet habillement, presque uniforme, lui rappelait vaguement la livrée qu'il endossait jadis pour accompagner les vieux seigneurs à la messe ou dans leurs visites. La livrée était la seule chose qui lui remit en mémoire les splendeurs de la maison des Oblomov. Seul, cet habit retraçait, aux yeux du vieux serviteur, la vie seigneuriale, large et tranquille, au fond de la province. Les vieux seigneurs sont morts, les portraits de famille sont restés dans le château. Peut-être qu'ils y traînent quelque part au grenier. Les traditions de la noble famille s'effacent et ne vivent plus que dans la mémoire de quelques vieillards, qui eux aussi sont restés à la campagne. Voilà pourquoi Zakhar aimait tant son vieil habit gris. Cet habit et certaines traces qui, dans la figure et les manières du barine, faisaient songer à ses ancêtres, les caprices même du maître, dont Zakhar grognait tout bas et tout haut, mais qu'au fond, il respectait comme la manifestation de la volonté, du droit du Seigneur, était tout ce qui restait pour Zakhar de la grandeur passée. Sans ses caprices, il ne sentait pas le maître au-dessus de lui. Sans eux, rien ne ressuscitait sa jeunesse, le village qu'ils avaient depuis longtemps quitté ensemble, et les traditions, seules chroniques que gardaient sur cette antique maison les vieux serviteurs, les bonnes, les nourrices, et qu'ils se transmettaient de génération en génération. La famille des Oblomov avait jadis été riche et renommée dans le pays. Mais ensuite, Dieu sait comment, elle s'était appauvrie, abaissée et insensiblement perdue parmi les maisons d'une noblesse moins ancienne. Seuls les domestiques qui avaient blanchi à son service se passaient les uns aux autres la mémoire fidèle du temps qui n'était plus et la chérissaient comme une relique. Voilà pourquoi Zacar aimait tant son vieil habit gris. Il se peut qu'il chérit aussi tendrement ses favoris, parce qu'il avait vu dans son enfance beaucoup d'anciens serviteurs avec ce vieil aristocratique ornement. Oblomov, enfoncé dans sa méditation, ne remarqua point Zacar. Zacar se tenait devant lui en silence. Enfin, il toussa. « Que veux-tu ? » demanda Élie. « Mais c'est vous qui m'avez appelé. » « Je t'ai appelé ? Pourquoi t'ai-je appelé ? Je l'ai oublié, » dit Élie en se détirant. « Va un moment chez toi, je tâcherai de me souvenir. » Zacar sortit, et M. Oblomov continua de rester couché et de penser à cette diable de lettre. Un quart d'heure s'écoula. « Allons, » dit-il, « assez du lit, il faut enfin que je me lève. Cependant, si je relisais encore une fois, mais avec attention, la lettre du staroste, je pourrais ensuite me lever. Zacar !» On entendit le même bruit de pied, avec un grognement plus fort. Zacar entra, et Oblomov se replongea dans sa rêverie. Zacar attendit à peu près 2 minutes, mais d'un air peu bienveillant, regardant son maître de travers. Puis il se dirigea vers la porte. « Où vas-tu donc ? » demanda brusquement Élie. « Vous ne dites rien. Voulez-vous que je reste là pour rien ?» répondit Zacar d'une voix enrouée, car il n'en avait pas d'autre. Il prétendait avoir perdu sa voix naturelle par un coup de vent. Un jour qu'il chassait à cour en compagnie de son vieux maître, le vent s'était engouffré dans sa gorge. Il se tenait, donc, au milieu de la chambre, sur un demi-tour commencé, regardant toujours Oblomov de travers. « Est-ce que tes jambes sont paralysées ? Que tu ne peux rester là un moment debout ? Tu vois, j'ai des soucis. Attends donc, tu n'es pas encore là d'être couché là-dedans. Cherche-moi la lettre que j'ai reçue hier du staroste. Qu'en as-tu fait ?»« Quelle lettre ? Je n'ai pas vu de lettre, » dit Zacar. « Mais c'est à toi que le facteur l'a remise. Tu sais, cette lettre si sale. »« Et où l'avez-vous fourrée ? Qu'en sais-je, moi ?» dit Zacar, en tâtant les papiers et les autres objets étalés sur la table. « Tu ne sais jamais rien. Regarde-la dans la corbeille. Ou est-ce qu'elle ne serait pas tombée derrière le sofa ? Et voilà ce dossier qui n'est pas encore réparé. Que ne vas-tu chercher le menuisier ? C'est toi-même qui l'as cassé. » « Tu ne penses à rien. »« Je ne l'ai point cassé, » répondit Zacar. « Il s'est cassé tout seul. Il ne pouvait durer toujours. Il fallait bien qu'il se cassât une fois. » Élie ne crut pas utile de lui prouver le contraire. « L'as-tu trouvé, enfin ? » demanda-t-il. « En voici des lettres. »« Ce n'est pas cela. »« Ma foi, il n'y en a pas d'autres, » grogna Zacar. « C'est bien, va-t'en, » dit Élie avec impatience. « Je vais me lever et je la trouverai bien moi-même. » Zacar rentra dans son cabinet. Mais à peine avait-il appuyé ses mains pour sauter sur le poêle qu'il entendit crier vivement. « Zacar ! Zacar ! » !»«
Seigneur Dieu !»
aboya Zacar en se dirigeant encore une fois vers la chambre. « Quelle existence ! J'aimerais mieux mourir !»
« Qu'est-ce qu'il vous faut ? »
dit-il en tenant la porte de la chambre et en dirigeant sur Oblomov, en signe de mécontentement, un regard si oblique qu'il ne l'apercevait plus que de la moitié de son œil, et que le maître ne saisissait de sa personne que l'incommensurable favori, d'où l'on s'attendait à voir, comme d'un buisson, s'envoler tout à coup 2 ou 3 oiseaux.
« Mon mouchoir de poche, vite ! Tu aurais dû deviner toi-même ! « Tu ne vois rien !» remarqua sévèrement Élie.
Zacar ne manifesta ni déplaisir, ni étonnement particulier à cet ordre et à ce reproche. Ils trouvaient probablement l'un et l'autre très naturels.
« Qui sait où est le mouchoir de poche ? »
croassa-t-il en faisant le tour de la chambre et en tâtant chaque chaise, bien qu'il fût visible qu'il n'y avait rien dessus.
« Vous perdez tout !»
continua-t-il, en ouvrant la porte du salon pour regarder si le mouchoir n'y était pas.
« Où vas-tu ? Cherche ici ! Je n'ai pas mis les pieds là-dedans depuis avant-hier. Dépêche-toi donc !»« Où est le mouchoir ? Il n'y a pas de mouchoir !»
disait Zacar en gesticulant des bras et en promenant son œil dans tous les recoins.
« Mais le voici » grogna-t-il d'un air fâché. « Il est sous vous. En voici un bout. Vous êtes couché dessus et vous me le demandez. »
Et sans attendre de réponse, il se dirigea vers la porte. Oblomov était un peu confus de sa maladresse. Il trouva aussitôt un autre moyen de prendre Zacar en faute.
« Comme il fait propre ici, Dieu de Dieu, que de poussière, que d'ordures, là, là, regarde dans les coins, fainéant. »«
Fainéant ? Moi ?»
reprit Zacar d'un air offensé. « Mais je m'échine sans ménager ma vie. J'ai poussette partout et je balaye presque tous les jours. »
Il montra le milieu du parquet et la table où dînait Élie.
« Tenez, tenez, tout est balayé, rangé, comme pour une noce. Que voulez-vous de plus ?»«
Et ceci, qu'est-ce ?» Et Oblomov indiquait les murs et le plafond.
« Et ceci ? Et cela ?»
Et il désignait du doigt l'essuie-main jeté la veille et l'assiette oubliée sur la table avec le morceau de pain.
« Ah, ceci ! Ah bien, je veux bien l'enlever !»
dit Zacar d'un ton de condescendance en prenant l'assiette.
« Rien que cela ! Et la poussière des murs ! Et les toiles d'araignée ! »
fit Élie en montrant les murs.
« Ça ! Je le fais à Pâques ! « Alors je nettoie les images et j'enlève les toiles d'araignée. »«
Et les livres ? Et les tableaux ? Pourquoi ne les fais-tu pas ?»«
Les livres et les tableaux ? À Noël ! Alors Anicia et moi, nous mettons en ordre toutes les armoires. Quand voulez-vous que je puisse ranger ? Vous êtes cloués toute la journée à la maison. »«
Mais je vais quelquefois au théâtre ou en soirée. Est-ce que...
« Est-ce qu'on peut faire quelque chose la nuit ?»
Oblomov lui jeta un coup d'œil où se lisait un reproche, branla la tête et soupira. Zacar, de son côté, regarda par la croisée d'un air indifférent et soupira aussi. Le barine semblait se dire
« Ah, mon ami, tu es encore plus Oblomov que moi. »
Et Zacar probablement se disait
« Allons donc, tu n'es bon qu'à faire des phrases assommantes, et quant à la poussière et aux toiles d'araignée, tu t'en moques pas mal. »«
Comprends-tu, dit Élie, que la poussière engendre des mythes ? Il m'arrive même de voir quelquefois sur les murs une punaise. »«
Mieux que ça, j'ai des puces, moi, »
répliqua froidement Zacar.
« Et tu crois que c'est bien ?» Mais c'est de la malpropreté.
Zacar sourit de toute la largeur de sa face. Ce sourire atteignit ses sourcils et ses favoris. Ils s'écartèrent et firent place à une grande tache rouge qui s'étendit jusqu'au front.
« Est-ce ma faute s'il existe des punaises ? »
dit-il avec un étonnement naïf.
« Est-ce moi qui les ai inventées ? »
« C'est le résultat de la malpropreté. » interrompit Oblomov.
« Pourquoi dis-tu toujours des sottises ?»«
Je n'ai pas non plus inventé la malpropreté. »«
Est-ce que là-bas chez toi, les souris ne trottent pas toute la nuit ? Je les entends. »« Et les souris non plus, je ne les ai pas inventées. Elles abondent partout, ces petites bêtes. Les souris, les chats, les punaises. »« Comment se fait-il que chez les autres, on ne voit ni mythes ni punaises ?»
La figure de Zacar exprima l'incrédulité, ou plutôt la profonde conviction que la chose était impossible.
« J'ai de tout cela,
insista-t-il avec opiniâtreté. « On ne peut pas surveiller chaque punaise, ni se fourrer chez elle dans sa fente. » Et il avait l'air de penser « Peut-on faire un bon somme sans une punaise ?»«
Balaye, ôte les ordures des coins, et il n'y aura rien de tout cela, » dit sentencieusement Élie.
« Que je balaye ? Mais demain il s'en accumulera encore, » dit Zaccar.
« Il ne s'en accumulera pas, » interrompit le barine. « C'est impossible. »«
Il s'en accumulera, je le sais, » insista le domestique.
« Eh bien, s'il s'en accumule, tu balayeras encore. »«
Quoi ? Refaire chaque coin tous les jours ? Quelle existence ! Mieux vaut mourir !»«
Mais alors, pourquoi est-ce si propre chez les autres ?» demanda Oblomov. « Regarde donc chez l'accordeur d'en face, cela fait plaisir à voir, et ils n'ont qu'une servante. »«
Chez eux ? Chez ces Allemands ? Mais d'où diable voulez-vous qu'il leur vienne des ordures ?»
répondit vivement Zaccar. « Voyez donc la vie qu'ils mènent. Toute la famille, pendant 8 jours, est après le même os. L'habit passe et repasse du père au fils et du fils au père. » La mère et les filles ont de mauvaises petites robes. Elles sont toujours à ramasser leurs pieds sous elles, comme des oies. D'où diable voulez-vous qu'elles prennent des ordures ? Ces gens-là n'ont pas, comme nous, des armoires pleines de vieilles hardes qui y restent des années. Comment voulez-vous que, durant un hiver, ils s'accumulent chez eux tout un coin de croûte de pain ? Chez eux, ils ne s'y perdent pas un crouton. Ils en font des biscottes, et puis ils les avalent avec de la bière.
Et Zaccar cracha entre ses dents, rien qu'à l'idée d'une existence aussi sordide. « Allons, pas tant de conversation, » dit Élie. « Tu ne fais que raisonner. Range plutôt. »«
Je rangerai bien, quelquefois, mais c'est vous qui m'en empêchez. »«
Bon, te voilà encore. C'est toujours moi qui t'empêche. »«
Mais sans doute, vous restez tout le temps chez vous. Comment voulez-vous qu'on fasse la chambre quand vous y êtes ?» « Sortez pour toute la journée et on rangera. »«
Voilà encore de tes idées. Que je sorte. Va-t'en chez toi. Cela vaudra beaucoup mieux. »«
Mais je vous assure que c'est ainsi, » insistait Zaccar. « Tenez, sortez aujourd'hui et je rangerai tout ici avec Anicia. Mais encore, à nous deux, nous n'en viendrons pas à bout. Il faut prendre des journalières et laver tout. » »«
En voilà des inventions. » Des journalières. Fais-moi le plaisir de t'en aller. »
Oblomov était déjà fâché d'avoir provoqué cette conversation avec Zaccar. Il oubliait toujours qu'en touchant à cette question délicate, il était sûr de s'attirer des tracasseries interminables. Il désirait bien que tout fût en ordre chez lui, mais il souhaitait en même temps que cela se fît d'une manière quelconque, insensiblement de soi-même. Zaccar entamait toujours un procès aussitôt qu'on exigeait de lui l'époussetage, le lavage des planchers, etc. Il prouvait alors la nécessité d'un remue-ménage épouvantable. Il savait parfaitement que cette idée suffisait à jeter la terreur dans l'âme de son maître. Zaccar sortit, et Élie s'enfonça dans ses réflexions. Quelques minutes après, la pendule sonna la demie.
« Ah, mon Dieu ! » s'écria-t-il avec effroi. « Bientôt 11 heures, et je ne suis pas encore levé, pas encore lavé. Zaccar ! Zaccar !
Seigneur Dieu, encore ! »
Et l'on entendit le grognement et le bruit des deux pieds.
« L'eau est-elle prête ?
Il y a longtemps, pourquoi ne vous levez-vous point ?
Que ne me dis-tu que c'est prêt ? Je me serais levé depuis longtemps. J'ai à travailler. Je vais écrire. »
Zaccar s'éloigna quelques instants et revint avec un cahier graisseux et quelques chiffons de papier.
« Tenez, puisque vous allez écrire, vous ferez bien de régler aussi vos comptes. Il est temps de donner de l'argent. »
« Quel compte ? Quel argent ? » demanda Oblomov d'un air consterné.
« Mais le boucher, le fruitier, la blanchisseuse, le boulanger, ils veulent de l'argent. »«
Ça ne pense qu'à l'argent, » murmura Élie.
« Et toi, pourquoi ne me présentes-tu pas les notes une à une ?
Pourquoi toutes à la fois ?
Mais vous me mettez toujours à la porte. Demain, demain.
Eh bien, pourquoi ne pas remettre cela à demain ?
Impossible, ils insistent trop et ne veulent plus faire crédit. C'est aujourd'hui le premier.
Ah ! Dit Oblomov d'un air chagrin. Encore des soucis.
Eh bien, que fais-tu là ? Place-les sur la table. Je vais me lever tout à l'heure, me laver et je verrai. L'eau est-elle prête ?
Elle est prête, dit Zakhar.
Alors ?
Et tout en geignant, il fit un mouvement pour se lever.
J'ai oublié de vous dire, reprit Zakhar, que tantôt, lorsque vous dormiez encore, l'intendant a envoyé ici le portier, qui a dit qu'il fallait absolument déménager, qu'on avait besoin de l'appartement.
Eh bien, qu'est-ce que cela fait ?
Si on en a besoin, certainement, nous nous déménagerons.
Pourquoi m'ennuies-tu ?
Voilà la troisième fois que tu me le dis.
Mais c'est qu'on m'ennuie aussi, moi.
Alors, réponds qu'on déménagera.
Mais ils disent, voilà un mois que vous nous promettez, qu'ils disent, et vous restez encore là. Nous nous adresserons, qu'ils disent, à la police.
Eh bien, ils n'ont qu'à le faire, répondit Élie d'un air décidé. Nous déménagerons bien nous-mêmes dès qu'il fera un peu plus chaud, quelque chose comme dans 3 semaines.
Comment, dans 3 semaines ? L'intendant prévient que les ouvriers vont venir ici dans 15 jours, qu'ils doivent tout démolir.
« Déménager, qu'il dit, demain ou après-demain. »«
Eh, comme ils y vont, demain, qu'est-ce qu'ils chantent donc ?
Vraiment, oui, ne faudra-t-il pas par hasard que nous déménagions tout à l'heure ?
Je te défends de me parler de logement. Je te l'ai déjà défendu une fois et tu recommences. Prends garde. »
Et qui puis-je, moi ? Reprit Zakhar.
Qui puis-je ? Belle raison, ma foi, répondit Oblomov. Et il ose encore me le demander.
Est-ce que cela me regarde ? Laisse-moi tranquille, ne m'importune plus, et arrange-toi comme tu l'entendras, pourvu que nous ne bougions pas d'ici.
Tu ne peux donc rien faire pour ton barine ?
Mais comment, monseigneur, comment voulez-vous que je m'arrange ?
Miaula Zakhar en adoucissant sa voix enrouée.
« La maison ne m'appartient pas. Comment faire pour rester dans une propriété qui n'est pas à nous quand on nous en chasse ? Si la maison était à moi, alors c'est avec le plus grand plaisir. »«
Mais ne pourrais-tu pas les persuader de manière ou d'autre ? Leur dire
« Nous logeons ici depuis longtemps, nous payons exactement. » »«
Mais je l'ai dit. » »«
Eh bien, et ils chantent toujours le même air. » Déménager, qu'ils disent. Nous avons besoin de transformer l'appartement. Ils veulent en faire un seul de celui du docteur et du nôtre pour le mariage du fils de la maison.
Ah, bon Dieu !
Fit avec humeur Oblomov. Dire qu'il se trouve encore des ânes qui se marient. Il s'étendit sur le dos.
Vous devriez, monsieur, écrire au propriétaire, fit observer Zakhar.
« Peut-être vous laisserait-il tranquille, et commencerait-il par démolir l'autre appartement ?» Et il désigna de la main quelque part à droite.
« Ah, c'est bon, dès que je serai levé, j'écrirai. Va chez toi, j'y réfléchirai. Toi, tu ne sais rien faire, et je suis forcé de m'occuper moi-même d'une pareille vétille. »
Zakhar sortit, et Élie commença à réfléchir.
Mais il se trouva dans une étrange perplexité.
À quoi fallait-il réfléchir ?
Fallait-il penser à la lettre du staroste ou au déménagement ? Ou enfin fallait-il régler les comptes ?
Il se perdait dans ce flux de soucis terrestres et restait toujours couché. Il se tournait tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Seulement, de temps en temps, on pouvait entendre des exclamations entrecoupées.
« Ah, bon Dieu, qu'il est difficile de vivre en ce monde !»
etc. On ne saurait préciser combien de temps il aurait passé dans cet état d'indécision si la sonnette de l'antichambre n'avait retenti.
« Ah, voilà déjà quelqu'un !»
dit Oblomov en s'enveloppant dans son khalat, « et je ne suis pas encore levé.
Quelle honte! Mais qui peut venir à une heure aussi matinale?
Et, étendu dans son lit, il regardait la porte avec curiosité.